I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Métropolite. Moi, c'est Noémie et dans ce podcast, on vous parle nourriture du monde. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'expatriés vivant en France et prêts à partager avec nous la cuisine de leur origine et à nous en dire plus sur leurs habitudes alimentaires. Le but de ce podcast, c'est de tendre le micro à des gens comme vous et moi qui peuvent nous donner un éclairage sur des gastronomies que souvent, nous ne connaissons que très peu. À la fin de chaque épisode, mon invité et moi passons du micro à la fourchette. Nous allons soit ensemble dans un restaurant cher à son cœur et qui représente bien le goût de son pays d'origine, ou bien nous nous mettons au fourneau et faisons un plat emblématique de la cuisine de son enfance. Pour suivre cette partie-là, je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram @noemiebourrier. Et pour l'instant, envolons-nous donc pour le Portugal avec Pedro. Bonjour, bonsoir Pedro.
Salut Noémie, ça va?
Oui, ça va impec. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi.
Bah, grand plaisir.
Et pour la petite histoire, en fait, on s'est rencontrés, toi et moi, grâce à une très bonne copine commune, Lise, à qui on fait des bisous.
Bisous, Beijinhos d'ailleurs.
Oui, voilà, Beijinhos à Lise, et qui nous a fait nous rencontrer dans un lieu absolument fantastique, qui s'appelle, tu me corriges si je me trompe, Canelas. Canelas. Voilà, Canelas. Sous-titré d'ailleurs sur Google, ils donnent leur nom, donc ils disent Canelas, le Portugal à Paris.
Ben voilà.
Voilà, alors sauf que c'est pas vraiment à Paris parce qu'on s'est tapé une petite mission.
Quand même, un petit peu de RER en effet.
Voilà, on s'est tapé une petite mission parce que Canelas se trouve à Pierrefitte-sur-Seine. Et donc là-bas, on a rencontré Lise. Et en fait, elle nous a fait connaître ce lieu que moi j'ai trouvé absolument incroyable, qui est une sorte de restaurant mais ouvert du petit déjeuner au dîner, qui est ouvert également les week-ends et qui est vraiment un lieu de rencontre de la communauté portugaise.
En effet.
Puisque vous l'avez peut-être entendu du coup aux quelques corrections que m'a fait Pedro, mais donc tu es portugais.
Je suis portugais.
Voilà. Et donc Lise, cette amie commune, nous a invité pour un petit déjeuner vraiment portugais, mais à Pierrefitte sur Seine.
Voilà.
J'ai été hyper surprise, mais dans le très très bon sens du terme, par certains produits. Mais avant qu'on en parle, Pedro, est-ce que tu peux me faire une petite présentation de toi-même?
Je m'appelle Pedro, ou Pedro, avec le bon accent. J'ai 35 ans, dont 10 ans de Paris.
On va parler donc nourriture portugaise, mais on va surtout parler de toi, de tes expériences. D'où tu viens au Portugal?
Moi, je viens de Lisbonne, je suis né à Lisbonne, j'ai grandi là-bas, mais ma famille vient du centre littoral, disons, donc une centaine kilomètres au nord de Lisbonne, là où il y a toutes les vagues géantes, etc.
Et oui, donc pour revenir sur Canelas et pour que ce soit un peu le starting point de notre conversation, moi j'ai notamment été hallucinée par les différents cafés qui sont proposés dans cet endroit. Et en aucun cas, je n'aurais soupçonné que le Portugal était déjà si amateur de café et qu'il y avait des déclinaisons aussi nombreuses. Parce que autant, tu vois, on connaît l'Italie pour son espresso, on connaît d'autres pays comme le Vietnam aussi, par exemple, qui est très réputé pour son café fait d'une certaine façon. Le Portugal, je n'en avais aucune idée. Donc est-ce que tu peux un peu nous dépeindre les possibilités de café qu'il y a au Portugal, Pedro? Et puis toi, quel est ton préféré?
Avant de te répondre, c'est un peu une obsession nationale. C'est-à-dire que pour beaucoup, ça remplace parfois le boire le verre que tu peux avoir ici à Paris. C'est souvent au Portugal, c'est souvent boire le café, y compris le soir. Tu vois, on peut sortir pour aller boire un café. Si en semaine, on ne va pas nécessairement boire un verre d'alcool, c'est vraiment le petit café. Donc, tu as très bien saisi ce qui se passait à Canelas. Et en effet, donc nous, si tu veux, au Portugal, tu as différentes tailles. Et chaque taille va avoir son nom. Et parfois, la taille, c'est aussi en lien avec un différent type du coup, de conteneur, ouais. de tasse. Et après, il y a aussi tout le dégradé. Quand tu as des variations de café avec du lait, tous les dégradés aussi un peu du Pantone, quoi, si tu le veux, plus foncé ou plus clair.
C'est exactement ce que tu dis, c'est un Pantone de voilà. café. Un éventail de possibilités voilà. entre le plus foncé du plus foncé et le plus clair du plus clair. Ouais.
Et c'est ça que je trouve fantastique. Et c'est typiquement le genre de choses qui peut faire en sorte que tu renvoies ton...
Ah oui, tu renvoies ton café parce qu'il est trop
parce
foncé.
Parce qu'il faut ajouter soit du café, soit du lait, parce que ça ne va pas du tout.
Ah,
ouais. Et c'est pas trop chiant de remettre un petit peu de lait, tu vois,
Oui, c'est-à-dire que voilà, les gens comprennent que si t'as demandé un clair, t'es censé avoir un clair, quoi, et pas un semi-foncé. Et donc toi, quel est ton préféré, Pedro ?
Moi, mon préféré, c'est le galão, donc on est dans le café au lait, qui est servi dans un verre qui doit faire une vingtaine de centilitres, quoi, donc le verre normal. Et du coup, c'est du café avec du lait, normalement, je pense, presque moite-moite, mais moi, j'aime bien foncé. Donc moi, je demande, enfin peut-être un peu moins moite-moite, et moi, je demande à peu près moite-moite. Donc moi, j'aime bien le galão. Scuro, comme on dit toujours avec un petit diminutif à la fin, et ça se fait de moins en moins, mais du coup typiquement dans les cafés un peu traditionnels, surtout de ville, t'avais soit du café, ce que tu appelais le galão de máquina ou le galão de jet, donc direct ou de machine, donc où tu utilisais la machine à espresso pour le faire, ou sinon avec ce qu'on appelle le café de sachet ou le café de filtre, où tu avais aussi du café du coup un peu plus doux. Et moi, j'avoue que pour le galão, quand il en a, j'adore avec du café de sachet, parce
qu'il
y a vraiment un truc hyper agréable.
Ok, ouais, donc c'est quand même assez pointu au point que tu te sois dit, même le café, je l'aime, voilà, enfin j'aime qu'il soit fait d'une certaine façon et ensuite qu'il soit dilué dans
Absolument.
Une certaine
tasse
de lait.
Et donc, et pour certaines personnes, avec les petites tasses de café d'espresso, tu rajoutes encore la température de la tasse, c'est-à-dire tu peux demander ce qu'on appelle un peu, si tu veux, là. On dirait scaldade. Scaldade, c'est nous on dit au scaldant, c'est un coup de soleil, mais c'est aussi poché. Enfin, c'est pas vraiment poché, mais presque. C'est vraiment quand tu passes ta tasse sous l'eau chaude pour que le café soit vraiment chaud.
D'accord.
Ce qui pour moi, c'est insupportable.
D'accord.
J'aime mon café un peu tiède, ça se fait pas, mais.
Ok.
Mais j'attends un petit peu.
Voilà. Non, mais c'est fou. Donc, le café portugais, tu décides du contenant qui a donc un nom et une taille.
Ouais.
Tu décides du degré de foncé ou de clair, donc vraiment la couleur de ton café et la dose de lait qu'il y aura dedans. Et tu peux décider de la température également.
Oui.
Et ça doit prouver quand tu rentres dans un coffee shop, si t'es un vrai portugais, t'as direct les codes, non ?
Ouais. Et d'ailleurs, chez Canel, c'était pas le cas que la serveuse était brésilienne et j'ai commandé un truc qu'elle connaissait pas.
Oui, en fait, elle était brésilienne, en effet. Et toi, Elise, d'ailleurs, vous aviez vraiment une bonne idée précise de ce que vous vouliez comme café. Et vous avez dit le nom, le diminutif, etc. Et je crois que vous êtes rentrée dans une petite explication avec elle. Parce que voilà, elle-même n'avait peut-être pas tous les codes et toutes les déclinaisons possibles. Et j'essaierai de mettre sur Instagram, pour les auditeurs, en fait j'ai trouvé une cartographie du café portugais pour expliquer du coup justement tout ce dégradé et toutes ces possibilités qu'il peut y avoir. Et c'est vraiment, en fait, c'est même une infographie.
Ouais, infographie.
Donc
c'est le bon mot. Ouais.
C'est hallucinant, quoi. Et donc voilà, nous nous sommes retrouvés autour d'une grande tasse de café. Et ça m'a aussi permis de découvrir du coup énormément de pâtisseries, de pâtisseries portugaises qui se mangent, en tout cas que nous on avait possibilité de prendre au petit déjeuner. Est-ce que toi tu peux me parler, Pedro, de ce que t'aimes pour ton petit déjeuner, de ce que t'as pris chez Canelas? Je me souviens que c'était un croissant fourré. Donc, tu avais un petit côté sucré-salé. Ou est-ce que c'était Lise qui
l'avait pris ? Ça, c'était Lise. Donc, ça, c'est le croissant mixte. Donc, le croissant mixte qui est, du coup, avec du jambon. Donc, après, tu mets du jambon et du fromage dedans. Moi, j'ai fait ça, je me souviens.
Oui.
Mais avec le pain de Dieu, qui est une sorte de brioche avec la noix de coco par-dessus et du sucre en poudre.
Tout à fait. Ah. En fait, je me souviens vraiment que toi, tu étais allé vers du vrai sucré-salé.
Ouais.
Et c'est ce pain brioché que j'avais oublié, un peu noix de coco.
Ouais, ça typiquement, c'est un des trucs que je mangeais de temps en temps quand j'habitais au Portugal, mais là, quand je rentre, c'est vraiment le genre de choses qui... Enfin, que tu as que là, quoi, parce qu'il y a déjà, il y a cette culture de boire le café, il y a aussi le type d'endroit, en fait, c'est que nous, ce qu'on appelle le café, on voit au café, c'est aussi... C'est cette sorte de pâtisserie, boulangerie qui parfois c'est aussi ce qu'on appelle le snack bar, donc qui ouvre très tôt et qui peut être ouvert jusqu'à 22h, 23h, minuit. En effet, tu peux prendre le petit-déj, tu peux déjeuner, tu peux après goûter, tu peux... Donc ça, c'est vraiment ce genre d'endroit qui est un peu hybride. Enfin, d'ailleurs, le genre d'endroit aussi que mon grand-père avait. On mangeait un peu moins. C'est ce truc qui n'existe pas ici. C'est-à-dire que vos boulangeries sont délicieuses, vos pâtisseries sont délicieuses, mais on ne peut pas vraiment s'installer. Quand on peut s'installer, c'est une petite table.
C'est vrai qu'il faut libérer assez vite, d'ailleurs. Et en fait, dans une boulangerie-pâtisserie française, ce n'est pas tellement ce qu'on peut appeler un lieu convivial. C'est plus un lieu de passage, tu as raison. Alors que du coup, là-bas, au Portugal, c'est plus un peu comme le bistrot chez nous, presque.
Le bistrot ou le café, mais le bistrot, la brasserie, carrément ça. Ouais. Et du coup, on a aussi toute une culture de la pâtisserie.
Parce qu'attention, nous, on connaît tous ici le fameux... Vas-y, prononce-le parce que sinon...
Pastel de nata.
Voilà, moi j'aurais dit pastel de nata.
Ouais,
pastel de nata. On le connaît tous, mais en fait, quand je suis justement arrivée chez Canet, là, c'est que j'ai vu tout ce qu'ils avaient, je me suis dit... Ah, mais en fait, on n'en connaît pas le dixième.
Non, ça c'est la pointe de l'iceberg.
Ah ouais, c'est la pointe de l'iceberg.
C'est ce qu'on voit depuis Paris, mais il y a toute une...
Mais il y a tout un éventail de possibilités en termes de sucré. Est-ce que toi, tu peux me parler un peu de tes préférés, Pedro?
Ouais. Alors, il y a deux types, et je sais donner un exemple de chaque type. On a un type de sucré, de petites pâtisseries qui sont plutôt vraiment là... L'uso portugais à ce qu'on appelle les pâtisseries conventuelles, donc qui viennent des couvents associés aux nonnes, apparemment. Et donc, c'est vraiment 50 nuances de jaune d'œuf et sucre, parfois avec un peu d'amande, parfois avec quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est un truc, ça, c'est très traditionnel portugais. Et après, t'as l'autre truc, c'est un peu beaucoup d'influence de la pâtisserie française que nous on transforme et qu'on rend dans une chose un peu plus. Populaire, quoi. Donc, c'est beaucoup moins raffiné. Tu vas perdre un peu tout le raffinement et tu vas être dans une logique un peu plus industrielle, quoi. Et un peu moins raffiné, mais toujours.
Efficace quand même.
Enfin, qui va être très bon et aussi, bien sûr, très sucré.
Ouais.
Donc, il y a un que je me suis dit qu'il fallait que je te parle. C'est le tocino do céu. On peut le traduire pour l'art du ciel. L'art dans le sens comme le gras de.
Ah, d'accord, le lard, ah, comme le lard. L'art, donc,
oui, voilà, comme le lard, donc, voilà.
Ok.
Et en gros, c'est une. C'est fait de sucre, c'est fait de jaune d'œuf, et c'est fait de courge spaghetti, qui est une chose qu'on trouve dans beaucoup de pâtisseries portugaises et qu'on ne trouve pas ici. Enfin, maintenant, on vend de la courge spaghetti plutôt pour le salé. Donc, moi, je la découvre en salé, j'en ai mangé cette semaine.
Donc, c'est un peu filandreux, du coup, enfin, un peu cheveux d'ange.
Ouais, ça peut être un peu filandreux. Après, ça dépend des recettes, mais ça te fait une chose qui est. Ça vient faire par rapport au truc où tu as que de l'œuf, c'est que ça vient adoucir un petit peu, ça t'apporte un petit peu presque de un peu d'acidité, etc. Et là, c'est vraiment, t'es dans la bombe calorique, mais qui est juste, quand c'est bien fait, ça a une texture incroyable.
Et ça se présente comment? Est-ce que c'est comme une crème du coup qui est montée, donc jaune d'œuf, sucre? Est-ce que c'est dans une petite pâte? Est-ce que c'est plus comme un flan?
Il est plutôt solide, t'as deux variétés, t'as un truc où ça va être plus fait avoir comme un plat qu'après. Tu peux manger en tranches, en part, ou sinon des petits cubes qui fait vraiment comme si c'était des petits lardons, quoi.
C'est marrant.
Et ça, c'est délicieux. D'accord. Donc ça, c'est un truc que j'adore.
Donc ça, t'as redécouvert.
J'ai redécouvert ça cet été. J'étais trop content. Parce que à côté de chez mes parents, donc vers la mer, tu as le surf, mais à côté, t'as aussi un endroit où il y a qui est très connu pour ses pâtisseries conventuelles.
D'accord. Donc, c'est beau ce nom, pâtisserie conventuelle. Je connaissais même pas le terme.
Alors, on dit doucerie conventuelle ou pastelerie. Doucerie, je pense. En fait, c'est parce que les nonnes, c'est la légende, après je sais pas si c'est vrai ou pas, les nonnes utilisaient le blanc d'œuf pour repasser leurs habits. Pour que ça tienne, tu vois, les trucs un peu...
Oui, la collerette, la fameuse...
Voilà. Donc, elles utilisaient le blanc d'œuf pour ça, pour utiliser dans une logique de
non-gâchis, de zéro déchet.
Anti-gaspillage, et parce qu'il y avait beaucoup de sucre au Portugal qui venait et de Madère et du Brésil. Bah, elles utilisaient, du coup, elles faisaient des pâtisseries à base d'œuf et de sucre, parce que ça servait aussi à les conserver.
Bien donc, sûr tout.
Un peu comme pour la morue, on a 3000 versions de faire la morue pour faire aussi le jaune d'œuf avec le sucre. Il y a aussi beaucoup de créativité qui est allée dedans. Donc moi, je dirais le petit lard du ciel, le lard du ciel. Je dirais le jésuite. Ça, j'adore le jésuite. C'est un triangle de pâte feuilletée. avec un petit peu de crème, un tout petit peu de crème à base de jaune d'œuf aussi, mais pas beaucoup. C'est ça, et ça dépend des préparations, avec un peu d'amande, mais plutôt de l'amande émincée, un peu toastée, et qu'après, à la fin, ça a une couverture de comme un tout fin meringue, par-dessus, que du coup, qui est vraiment... Enfin, c'est incroyable, c'est une sorte de carapace. Donc, c'est vraiment une sorte de triangle avec une carapace. Un triangle quand même grand, à peu près la taille d'un petit A5. Donc, et du coup, il n'est pas très substantiel. Du coup, il est assez aéré. Et moi, j'adore parce que quand tu le manges, en fait, tu croques dedans.
Ah oui, ça se brise. Du coup, la première couche, en fait,
elle se brise et ça va se coller un peu.
À ton palais.
À ton palais, c'est incroyable. T'as un peu le. Et c'est juste délicieux. C'est les originels. Je pense à celui que nous, on adore. Dans ma famille, il vient de Saint-Otis, qui est plutôt au nord-ouest du Portugal. Pas loin de Porto. Vous pouvez prendre le RER de Porto pour aller manger des jésuites.
Ok, génial. Bah oui, parce que j'imagine aussi que c'est des spécialités régionales, des spécialités de certaines villes.
Enfin, absolument.
En tout cas, quand on voyait chez Canet, là, cela. Ouais, le. Encore une fois, l'éventail, j'ai du mal à trouver un autre mot. Mais toute cette diversité, oui, on se doute que chaque région avait un peu son fer de lance, quoi, en termes de pâtisserie. Et moi, surtout, là, quand tu mentionnes, Pedro, donc le lard du ciel ou le jésuite, j'avais trouvé, même quand tu me les avais montrés donc, en vitrine, qu'elles ont toutes des noms sympathiques et très imagés, les pâtisseries.
Ouais.
Je me souviens notamment de la serviette, qui est vraiment donc une pâte qui, j'imagine d'ailleurs, doit être carrée à la base, mais que repliée sur elle-même pour former un triangle. Et on retrouve vraiment la serviette de table, en fait, qu'on met sous l'assiette. Et celle aussi qui m'a marquée, c'est la boule de Berlin, qui est, alors arrête-moi si je me trompe, c'est une pâte un peu comme une pâte à beignet, mais qui est fourrée également d'une petite crème pâtissière, j'imagine, de jaune d'œuf et
bien
sucre.
Sûr. En fait, la boule Berlin, c'est en gros... T'as très bien décrit, c'est une pâte à beignet, une pâte à donut qui est frite et qu'après on la fourre avec une crème pâtissière, crème aux œufs. Et en fait, c'est une chose qu'on mange à la plage au Portugal. C'est-à-dire que tu as typiquement des gens qui se baladent sous 30 degrés avec des glacières et qui crient « Olá, bolinha, olá, bolinha, bolinha, bolinha ». Et en fait, quand tu es à la plage, c'est bizarrement satisfaisant de manger cette pâtisserie. Moi, ce que j'adore, c'est déjà, nous, on reste très très longtemps à la plage, et contrairement à ce que pourrait être ce que nos familles faisaient, nous, on mange pas beaucoup, on prend un petit-déj, et après, donc à un moment donné, t'as un peu faim, tu vois, t'es au soleil, t'es contente à manger des petits fruits, des machins.
Puis t'as nagé dans les grandes vagues de l'Atlantique.
Tu t'es fait un peu maltraiter par les vagues, donc t'es un peu fatigué. À un moment donné, il y a les boules de Berlin qui passent. Et du coup, tu les manges. Et encore une fois, cette chose un peu jouissif, parfois de la crème qui gicle presque. Après, à un moment donné, c'est recouvert de petits sucres, de petits cristaux de sucre en poudre. Et ça commence à se confondre un peu avec du sable, en fait. Donc, il y a des moments où tu sais pas trop si c'est du sable, si c'est du sucre. Et moi, j'adore cette... Ouais, c'est presque un peu dissonant parce que c'est vraiment pas le genre de chose que tu devais manger à la plage. On le fait toujours, depuis toujours.
Et tu sais que d'ailleurs, sur les plages du sud de la France, en tout cas, moi j'ai un souvenir quand on était au bord de la Méditerranée avec mes parents vers Nice, où il y avait aussi des gens armés de gros bacs ou de glacières criaient chouchou, beignet. Et c'était vraiment, soit les petites cacahuètes enrobées de sucre caramélisé, les chouchous, ou les chichis dans d'autres. Dans d'autres endroits, et les beignets. Et c'est vrai qu'en soi, quand tu te tartines au soleil, tu vois que t'as hyper chaud, c'est pas spécialement un beignet que t'irais manger, mais en fait, ça passe crème.
C'est trop bien.
Donc oui, en tout cas, moi je me souviens que ces deux noms m'avaient un petit peu frappé.
Et là aussi, manger de la pâte de biche.
Oui, tout à fait. Et qui, pour le coup, pareil, c'était assez imagé. C'était comme une pâte ovale un peu allongée avec la petite fente au milieu qui faisait penser donc à la pâte d'une biche, en effet. Donc, en tout cas, moi, j'ai été hyper surprise et frappée des possibilités sucrées qu'offre la nourriture portugaise. Et c'est quelque chose, tu vois, dont j'étais totalement passée à côté, même en ayant été au Portugal deux fois, à Lisbonne, même trois fois. Et je n'avais pas réalisé à quel point c'était complet en termes de sucrerie et de pâtisserie. Donc si vous voulez tester autre chose que le pastel de nata, même s'ils le font excellemment bien chez Canelas, d'ailleurs... Petite parenthèse, c'est eux qui fournissent tout Paris, quand même. Ouais. moi, je vous engage, en tout cas, à aller tester, à vous faire une petite mission à Pierrefitte. Et c'est ce que Lise nous disait. Il paraît que c'est bondé le week-end, que énormément de gens, bah, du coup, de la communauté portugaise qui connaissent bien le lieu, viennent en famille, enfin, que vraiment, apparemment, tu peux pas circuler. Mais voilà, si vous y allez en semaine, déjeuner et dès le petit matin, c'est marrant, il y a un peu les, j'allais dire, les, pas les piliers de bar, mais bon, les piliers de comptoir qui sont avec leur petit café, leur journal portugais. Et vraiment, vous aviez même parlé brièvement avec un monsieur qui disait, c'est comme au Portugal, quoi. Le Portugal à Paris. Ouais. Donc c'était une super expérience et donc je me suis dit qu'il fallait d'autant plus qu'on parle du Portugal, de ton rapport à la nourriture portugaise, Pedro, parce que tu mentionnais rapidement tout à l'heure que ton grand-père avait un lieu en tout cas de nourriture.
Il n'y avait pas tant de nourriture que ça, il avait un grand café qui était aussi tabac, mini-marché, mercerie, vraiment.
Ah ouais.
Mais il n'avait pas vraiment à manger, il faisait, les dimanches il y avait du poulet rôti. C'est-à-dire le poulet rôti à la portugaise, je ne sais pas si tu vois qu'il est plutôt ouvert, je ne sais pas comment ça se dit en français.
Oui, il est ouvert. Alors, j'ai appris récemment, c'est en testant une recette du Mozambique de poulet à la noix de coco que j'ai appris comment ça s'appelait en français. C'est donc un poulet en crapaudine.
Okay.
Parce que si tu le regardes de haut, ça ressemble en effet un petit peu à un crapaud grenouille.
Alors qu'en anglais, on dit parfois butterfly.
Vois, c'est plus charmant. Ouais.
Après, aussi, ils appellent juste ça le spatchcock aussi parce que c'est un peu plus petit.
Ah
parfois.
Oui. Mais, tout à fait.
Ouais. Mais je préfère le crapaud, je pense.
Ouais, crapaudine, ouais, tu vois. Et alors que c'est vrai que nous, en France, on présente pas spécialement le poulet comme ça. Mais toi, du coup, le poulet comme ça que faisait ton grand-père, il le découpait donc en deux.
Ouais, bah en fait, ils achetaient déjà surgelé. Du coup, en gros, il avait une machine à rôtir des poulets qui avaient presque l'air d'être une machine à pop-corn. Il est plutôt dans la verticale, avec trois grands tiroirs, avec des résistances. Tu sortais, tu ouvrais, tu mettais deux, trois poulets. C'était la seule nourriture que se faisait vers l'extérieur, parce qu'après par contre ma grand-mère était dans la grande cuisine en cuisinant pour les serveuses, parce que du coup le café était grand, il y avait la mercerie, donc cuisiner pour tout le monde et pour la famille qui venait aussi dîner, donc il y avait aussi
donc vous étiez vraiment le point de rendez-vous du village, de la ville,
du petit village,
avaient autant
petit...
de fonctions,
ouais.
Ça devait être le meeting point.
Ouais, bah c'est aussi un truc hérité, je sais pas quand mon grand-père a ouvert le café, mais c'était, enfin, aujourd'hui, ce serait impossible de faire un truc comme ça parce que t'as plein de supermarchés, t'as plein de centres commerciaux. Mais à l'époque, en fait, il avait un peu ce truc de magasin un peu important. Il y avait quand même dans le village qui avait 500 habitants, il y avait au moins 4 autres cafés. Donc il y a vraiment ce truc du café de.
Cette importance du café en termes de lieu et de boisson.
Ouais.
Et alors, est-ce que tu peux, Pedro, là, tu me parlais donc du poulet du dimanche. Est-ce que tu peux un peu me parler des plats de ton enfance, du goût de ton enfance dans ton quotidien au Portugal?
Moi, j'avais une mère qui cuisine très bien et qui du coup faisait à manger tous les jours, ou presque tous les jours. Et du coup, j'ai grandi en mangeant très bien. Pas nécessairement tout le temps très traditionnel, très portugais, mais on mangeait très bien on mangeait ce qui est une caractéristique classique de la cuisine portugaise. On mangeait avec abondance, constamment avec abondance. Et après les plats peut-être un peu plus traditionnels, ils étaient souvent du coup des plats de week-end. Nous on allait tous les week-ends du coup au village où mon grand-père avait le café, et du coup c'était là qu'on sortait où on faisait les plats plus traditionnels qui souvent te demandent un petit peu plus de temps.
Ouais, bien sûr.
Mais j'ai grandi avec la nourriture faite à la maison. En gros, si tu veux, le repas traditionnel tel que moi je le vois à Portugal, c'est un très plat dessert, l'entrée est un potage. Non, c'est pas l'autre jour, je sais pas où je. Parce que vous, par contre, vous avez 50 manières d'appeler la soupe et nous, on a une seule.
Le velouté, et le potage, la soupe. La dernière fois, j'ai vu dans un restaurant le consommé, je crois.
Voilà.
Le bouillon. Ouais, c'est vrai.
Soupe, quoi.
Ouais,
donc,
soupe.
Nous, on a soupe.
Il y a une vraie différence et ça, c'est drôle parce que je le retrouve dans plusieurs interviews avec différentes personnes originaires de différents endroits dans le monde. C'est qu'ils me disent, notamment avec quand j'ai interviewé un jeune homme écossais, un jeune homme hongkongais, ils me disent, pour vous, la soupe, c'est 100 morceaux velouté. Enfin, c'est vrai que nous, on a vraiment cette culture du velouté, même en industriel, tu vois, les soupliers big, etc. Et eux, pour eux, ils me disent non, pour nous, la soupe dans notre pays, c'est avec des morceaux, avec de la mâche. Ouais. Tu vois. Qu'est-ce que c'est au Portugal? C'est comment?
Entre deux, l'art du compromis. En gros, si tu vas au Portugal, il y a toujours une base qui est une purée, donc en velouté, si tu veux. Et la base, je pense qu'après, chaque famille doit avoir un peu sa variation, mais en gros, tu as. des pommes de terre, des oignons, peut-être du navet et un truc orange, donc normalement des carottes. Donc ça, c'est un peu la base. Ça, c'est la base, je n'appelle rien. Et après, on mixe ça et après, on l'ajoute en dernier truc. Et du coup, le potage au poireau est un potage où il y a cette base et à la fin, tu ajoutes tes poireaux qui vont juste bouillir un petit peu. Et alors qu'il y a, c'est peut-être des ingrédients qui a le moins, tu vois. Mais du coup, au cresson, pareil, on met du cresson à la fin, etc., etc. Mais il y a rarement de la soupe avec morceaux. On a la soupe julienne, donc là, c'est des légumes juliennes, mais c'est rare. C'est un truc de cantine d'école. Hein,
d'accord.
Et après, certaines soupes, mais qui te ramènent presque vers le plat, quoi. Des soupes très, très consistantes.
Des soupes assez riches.
Avec de la viande, etc.
D'accord. Et ensuite, du coup, après ça, c'est un plat souvent un peu comme en France, viande accompagnement ou poisson accompagnement.
Je dirais donc plutôt protéines animales accompagnement. L'accompagnement était presque toujours féculent, parfois double féculent. Riz pommes de terre. Et si c'est du poisson, tu peux avoir un ou deux légumes qui vont avec. Donc là, tu vas avoir des pommes de terre bouillies, tu peux avoir soit un peu de carottes, un peu de brocoli, que sais-je. Ou sinon, la fameuse salade, que pour nous, c'est de la laitue, de la tomate s'il en a, et des oignons crus. Mmh. Avec après juste de l'huile d'olive tu jettes dessus et du vinaigre.
Et alors Pedro, là tu mentionnais, tu sais, les repas du quotidien. Est-ce que toi aussi dans ton enfance t'avais un peu des trucs des desserts industriels que t'aimais bien manger quand t'étais petit? Moi par exemple j'ai le souvenir du flambi en France. Donc tu tires la languette et puis tu relèves le petit baquet en plastique là et t'as ton flambi. Qu'est-ce que tu...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tu mangeais quand t'étais petit en fin de repas?
Moi, Alors, c'était rare. C'était plutôt le truc d'anniversaire. Mais moi, j'adore ce qu'on appelle le pudding Bocados. C'était la marque. Bocca d'os voulant dire bouche sucrée ou bouche douce, et c'était vraiment des puddings, mais le plus industriel possible au monde. Et il avait toute une gamme de parfums. Et là, bonheur de l'enfant gourmand, mon grand-père ayant un mini-marché.
T'avais tous les parfums.
Tous les parfums. Et j'avais le droit, pendant l'été, quand j'étais vraiment... Quand tu arrivais, tu sais, tu commences vers la mi-août, quand ton enfant commence à être insupportable, moi, là, j'avais...
tu lâches la bride.
Mais là, j'avais le droit, genre, je faisais presque des cocktails de pudding, où je faisais, tu vois, où d'abord, je faisais un premier avec ma mère, on faisait un premier parfum, on mettait un peu au frigo, après, on prépare à l'autre, et on rajoutait, et on faisait des choses un peu mélangées, et c'était...
Mais alors, quand tu dis pudding, est-ce que c'était un peu comme une crème? C'était quelque chose de...
Alors, ce qu'on appelle en portugais un pudding, il a une consistance plus proche de la crème caramel, je dirais.
Okay.
Que du coup, c'est ce que nous, au Portugal, on va appeler un peu un pudding flan. C'est souvent, en fait, de la crème caramel.
D'accord.
Il y avait une poudre et de l'eau chaude, dans mon souvenir, c'est ce qu'il avait.
Ah ouais. Ah, mais alors, attends, c'était des kits?
Ah ouais.
Ah, c'était des kits.
C'est un bonheur.
D'accord, ok.
Un peu comme la gélatine que j'adore aussi.
Donc, d'où, oui, le mix de parfums. Ouais. En fait, tu pouvais prendre différents sachets et faire des gradations, du coup, tu te faisais des petits étages.
Ouais, je faisais des petits étages. Parfois, je mélangeais juste deux, je pense, quand même, un peu mollo.
Ouais.
Je mélangeais deux à la fois. Mais tout ça, je pense que c'est les bonheurs de l'Espagne, là, que je pense. Je pense que tout ça, c'était des marques espagnoles qui étaient un bonheur, quoi.
Ok. Donc ça, c'est un peu pour tes souvenirs d'enfance, de l'ordre du quotidien, on dira. Et tu mentionnais le fait que ta grand-mère faisait des plats un petit peu plus traditionnels, un peu plus vraiment cuisine portugaise.
Et ma mère aussi.
Et ta maman aussi. Est-ce que tu peux me parler un peu de plats traditionnels, du coup, qui t'ont marqué, de plats régionaux ou nationaux, si ça existe?
Alors, dans ma région, et ça par contre, on mange rarement à la maison, il y a quand même le poisson grillé.
Ah bah
ça,
bien sûr.
Ça par contre, est con.
Le bonheur.
Et là maintenant, quand je rentre au Portugal, c'est environnementalement, c'est une catastrophe, mais je mange autant de poissons que je peux.
C'est pas moi qui vais te juger, Pedro.
Ah non, mais là, franchement, il y a peu de choses qui me rendent aussi heureux que du bon poisson très bien grillé. Et là, du coup, c'est vraiment un petit peu de pommes de terre, une abondante salade avec des poivrons grillés, avec un bon verre de vin. Le goût vraiment de la braise, tu vois, du bar. Parce que quand je dis grillé, c'est, enfin, nous, on est plutôt vraiment à la braise. Donc, avec le goût un peu fumé du barbecue, et c'est juste, c'est une joie immense. Donc, il y a ça, déjà. Donc, nous, on fait pas trop à la maison. Quand on le fait, là, c'est toujours difficile. Enfin, on mange content, mais aussi toujours, c'est pas aussi
c'est pas
bon.
Pareil, bah oui.
C'est un peu comme les Américains avec le barbecue, tu vois. Il y a vraiment des gens qui sont des génies de la grillade, tu vois.
Et du fumage aussi, ouais. Carrément.
Vraiment, ça, je pourrais manger que ça pendant des mois quand je suis au Portugal. Donc ça, c'est des choses que j'aime beaucoup et c'est traditionnel. Ça, c'est très traditionnel de ma région, qu'on n'est pas loin de la mer, donc c'est très important. Moi, je dirais après, ce que j'adore le arroz de cabidela. Ouais. C-A-B-I-D-E-L-A, qui est un... Ça commence comme un... Donc au Portugal, on a beaucoup les riz, on appelle riz d'œufs, et souvent, c'est des grandes casseroles où on fait soit mijoter une viande ou soit on fait une préparation avant et après on ajoute du riz avec beaucoup d'eau, donc finalement ça te donne un riz avec qui a certains, parfois les étrangers disent que c'est une soupe, mais pour nous c'est un riz, c'est juste qu'on met beaucoup d'eau parce qu'on a un grain de riz qui s'appelle carolino qui est entre le riz lambda, long grain, et le riz que les Italiens utilisent pour le risotto,
donc
qui laisse un peu de...
Bah de mâche plus.
Ouais, de mâche et d'amidon, c'est ça, donc ça rend le truc un peu plus onctueux et crémeux. Donc riz de cabidela, c'est avec de la poule, et donc de la poule parfois un peu, ou du poulet un peu, surtout nous on avait nos poulets, donc ils peuvent être un peu ferme. Un peu peu ferme, donc il faut les cuisiner un peu longtemps. Du coup, moi, ça va... Et là-bas, c'est un mijoté de oignons, tomate, passata tomate, et avec un petit peu toujours pour assaisonner de la charcuterie, donc un petit peu de lard, cette fois-ci du lard ou du cholis. Donc tu cuisines avec du vin aussi, tu cuisines ça. Et après, quand il est déjà bien cuit, tu ajoutes de l'eau pour cuire le riz. Et quand le riz est presque cuit, tu ajoutes le sang de la poule.
Oh, donc, d'accord.
Le sang qui a été conservé avec du vinaigre pour que ça ne coagule pas. Et
être assez spécifique, ça, même à trouver. Non, c'est dans les boucheries.
Alors
dans
nous, nous, on avait du coup chez nous. Donc quand on tuait la poule, on gardait le sang. Mais ça se trouve encore dans les ça se trouve dans les boucheries. Et moi, je suis pas très viscère. Enfin, moi, je suis pas très. Mais là, du coup, ça a pas du tout problème de texture ni les goûts parfois très très forts. Et là, vraiment, ce que ça apporte, c'est un truc un peu presque un peu sucré. Avec un peu de l'acidité du vinaigre qui était dans la conservation
du sang. Ouais.
Et ça fait un truc en plus qui a une couleur marron, qui est vraiment très bon. Donc c'est des blagues pour les enfants. Bah, c'était pas mon cas parce qu'on voyait les poules en train d'être tuées. Donc, mais pour les enfants, souvent c'est du riz au chocolat.
D'accord.
C'est vraiment très bon.
Mais en effet, ça a l'air très bon. Et du coup, est-ce que tu te retrouves à manger ça dans un bol, dans une assiette creuse, parce que c'est un peu liquide, enfin.
Non, c'est souple, pas nécessairement.
Donc tu peux manger quand même dans une assiette
plate. Oui, il y a du liquide, mais il n'est pas hyper abondant. Donc le truc, c'est vraiment, il faut manger tout de suite, parce que sinon le riz continue d'absorber le jus, et du coup, il devient un peu moins intéressant. Et après, moi, je mange ça avec du pain, quoi. Donc ça, c'est délicieux. Donc après, il y a tous les riz aussi qui sont en poisson ou fruits de mer, ça, j'adore. Bah, on parle un peu de morue, quand même.
Ah, bah ouais, quand même.
Il y en a beaucoup de morue.
Ouais.
C'est une arrivée tardive dans ma vie. Moi, j'aimais pas trop la morue. Je trouvais ça un peu chiant. Moi, ma préférée, c'est là aujourd'hui, je vais dire que ma préférée, c'est bacalhau com broa. Donc, broa, c'est un pain que je sais pas trop comment il est fait, mais qui peut être fait souvent avec du maïs, ce qui est rare au Portugal. Et c'est un pain du coup qui est très très dense, mais assez humide. Et qui a un truc un peu douceâtre et qui a je retrouve des choses un peu pareilles dans les boulangeries très très branchées qui existent désormais, les grands pains de seigle.
D'accord.
Qui vont être un peu plus bas que les autres,
oui,
moins aérés,
moins levé, plus condensé.
Donc ça c'est plus proche de la broa, sauf qu'on l'a aussi de blé et de maïs millet. Et du coup, en gros, tu vois, c'est une morue qui est faite au four, donc un peu pas vraiment confite, mais qui est faite au four, qui va cuisiner. Et on le fait une sorte de croûte de broa avec d'huile d'olive et un peu d'ail, et qu'on va manger avec du coup des légumes qui n'existent, enfin qu'on peut manger. Alors qu'on va manger avec des pommes de terre coup de poing,
Donc, ça s'appelle comme ça?
Ouais.
Réellement cuire.
C'est des pommes de terre que tu vas cuire au four avec beaucoup de sel et rien d'autre. Et du coup, le sel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, il va déshydrater un peu les pommes de terre.
Mm.
Et toi, ce que tu fais après, c'est que tu les sors et du coup, tu prends,
les tapes.
Tu les tapes. Et du coup, elles vont s'écraser un petit peu, mais pas trop. Ouais. Le but étant juste qu'elles soient assez fermes, enfin assez entières, mais assez ouvertes pour pouvoir absorber ce que tu vas mettre dessus, qui est beaucoup d'huile d'olive, beaucoup de persil et beaucoup d'ail.
Ah ouais.
Ça, c'est très bon.
Mais les Portugais, vous êtes des kiffeurs.
C'est très
bon. Vraiment, ça donne envie.
Ah,
hein.
Ah non, mais ça. Donc, et du coup, avec grelos, c'est grelos que on mange pas ici, mais ça, c'est génial.
Mais oui, parce que nous, in fine, la morue, on la connaît que sous forme de brandade.
Alors, j'ai une discussion.
Enfin, j'ai l'impression.
Oui, j'ai cette discussion, c'était quand?
Ah, Pedro enlève ses lunettes, il a l'air comme
oh,
ça.
Ah oui, c'était la semaine dernière à la cantine. À la cantine, il y avait la brandade. Il y a des gens qui sont venus me voir en disant que la brandade était portugaise. Je sais pas,
ah, bah, pas du tout, non.
La brandade, elle n'est pas portugaise. La brandade, elle est du sud-ouest de la France.
Ouais.
Enfin, c'est bien la brandade. Je la trouve un peu chiante, mais bon, mais la morue est bonne. mais non, la brandade de morue n'est pas portugaise.
Ouais. Voilà, que ce soit dit une fois pour toutes.
Ouais.
Les Portugais font de la morue sous bien des formes, mais certainement pas sous brandade.
J'ai googlé, j'ai fait une recherche sur Google pour voir quel serait le plat de morue portugais qui serait surtout composé de purée de pommes de terre et de morue. Il y a un truc qui s'appelle bacalhau à conde da guarda, mais que j'ai jamais vu nulle part, que j'ai jamais mangé, mais donc ça va être une chose un peu très régionale, typiquement. Mmh.
Mais en tout cas, c'est intéressant, Pedro, ce que tu dis, parce que de même que je n'avais aucune idée de la tonne de pâtisserie que vous avez, je n'avais pas non plus soupçonné qu'en fait la morue pouvait être cuisinée et déclinée sous des tonnes de plats qui ont chacun leur nom.
Mais si, ah oui.
Les gens ne savent pas.
Morue grillée, c'est très bon. Au barbecue, pareil, du coup, avec les pommes de terre, comme je t'ai raconté, souvent on fait ça et on rajoute la morue que tu as un peu effilochée après l'avoir grillée. Ça, c'est délicieux. La morue frite, c'est délicieux. La morue frite, après, tu peux mettre un peu des oignons confits par-dessus. Elle va s'imprégner du confit d'oignons et de l'huile d'olive. Ça, c'est délicieux. Les beignets de morue. Là, du coup, c'est une sorte de brandade morue frite, en fait. Ça, par contre, ça, c'est peut-être ça, avec un peu de persil.
Mais tu sais que ce moment, en tout cas, il me fait penser à cette scène anthologique dans Forrest Gump, tu sais, où t'as Booba qui dit « J'aime les beignets de crevettes, la soupe de crevettes, les crevettes à l'eau, les crevettes à l'huile. » Et donc, en fait, il y a autant de possibilités de morue au Portugal.
C'est clair.
Ok. Donc, en tout cas, toi, ta préférée, c'est celle-là dont tu nous as parlé, avec cette croûte un peu de pain et arrosée d'huile d'olive et de pommes de terre coup de poing.
Et avec des légumes sautés, donc des grèches, c'est un peu des pousses de navet, mais qu'on ne mange pas vraiment ailleurs. Et ça, c'est délicieux parce que c'est un peu amer, c'est très bon.
D'accord. Mmh. Oui, forcément, tu as aussi des bons légumes que tu ne trouves pas ici, quoi.
Ouais, mais ici, je trouve quand même que la qualité et la diversité de légumes, elle est plus forte ici.
Ouais.
Au Portugal, c'est quand même un pays qui n'est pas... C'est un pays à la base qui est pas très fertile, tu vois. Donc je pensais pour ça aussi qu'on n'a pas nécessairement beaucoup qu'on n'a pas autant la culture du légume qu'on peut avoir en France ou en Italie.
Mmh. Mmh. C'est un pays très chaud. C'est un pays où les gens sont beaucoup dehors. Moi j'avais marqué ça à Lisbonne avec toutes ces petites places qui sont vraiment propices au rassemblement des gens dans la rue et à l'espace en fait public qui peut être occupé par beaucoup de personnes. De même, il y a beaucoup de petits kiosques dans les parcs avec qui servent des bières, des petites choses, etc. Est-ce que toi tu peux me parler un peu de tes souvenirs de street food? Est-ce qu'il y a des choses qu'on mange dans la rue, des encas un peu de lieux publics, ou est-ce qu'on mange pas tant que ça et que c'est plus boire? Quel est ton ressenti, toi, sur la nourriture de rue portugaise?
Alors, nourriture de rue, littéralement, il y a 2-3 trucs qui me viennent à l'esprit, parce que ces kiosques, ils existaient, mais ils sont après, on les a repêchés assez récemment, donc
d'accord.
Ça c'est des années 2000 et c'est vraiment une merveille qui sont apparues. Mais de la street food, tu vois, les marrons, les châtaignes. Le 11 novembre, pour nous, c'est pas l'armistice, c'est la Saint-Martin.
D'accord.
Donc, typiquement, c'est le moment où on mange des châtaignes, on boit ce qui serait notre équivalent au Beaujolais, donc l'aguapé. Donc, peut-être qu'il y en aura là bientôt. Mm-hmm. Donc là, dans la rue, traditionnellement, tu avais, tu as encore un peu, des personnes qui sont en train de rôtir des châtaignes sur des petits, ils ont des petits véhicules, disons, parce que je n'ai pas employé caddie, parce qu'ici à Paris, il y a des gens qui font ça sur des caddies, oui. Donc c'est pas des caddies transformés, mais qui ont une sorte de tiroir où tu mets du charbon un peu en braise, et du coup, après, ils ont un fougadail où ils sont en train de cuire les châtaignes, qui du coup, ils ont qu'un coup de couteau pour que et beaucoup de sel, et du coup tu manges un truc qui a le goût de châtaigne, de sel et de cendre, et ça c'est très bon. Et surtout, il y avait toute la ville était parfumée de cette fumée, tu vois, on a l'impression qu'il y avait des fours partout. Et à l'époque, maintenant c'est interdit, en plus ils servaient ça dans les feuilles des pages jaunes, c'est un petit cône, et ils mettaient des trucs dedans.
D'accord.
Et ça c'est délicieux, ça. Donc ça c'est la street food que je vois,
et ça c'est l'odeur de l'automne.
Ouais ça c'est
street food automnal.
Ah, ouais, ça c'est un bonheur. Et tu sais, en plus c'est vraiment le début de l'automne, parfois il fait encore un petit peu beau, là on appelle ça l'été de Saint-Martin, donc c'est un bonheur. Et après, il y a, je dirais, les sandwichs. Donc, il y a la version roulotte, qui est beaucoup de nuit. Et surtout, ça, pas nécessairement en ville, mais quand tu rentres de soirée, tu t'arrêtes pour manger un sandwich. Et les sandwichs, c'est un petit pain avec, encore une fois, un bout de protéine à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment la base. Donc, ça, c'est la bifane. Donc, c'est un steak de porc. Ou le plek, qui est un steak de bœuf, mais un tout petit, hein, un faux filet. Mais moi, ce que j'adore à Lisbonne, c'est les endroits où tu peux, où t'as vraiment, il y en a encore quelques-uns, où tu peux tout mettre dans un pain et le manger. Donc, du coup, tu vas retrouver les fritures, qu'on mange les petits beignets frits, dans du pain.
D'accord.
Ou un filet de poisson dans un pain et rien d'autre. Donc, ça, c'est aussi. C'est pas vraiment de la street food dans le sens où t'es pas.
Non, mais quand même, c'est de la nourriture, quoi. Bah ouais. C'est quelque chose que tu mets entre deux tranches de pain et que tu peux manger dehors, en tout cas sans couvert.
Ouais.
Donc, oui, c'est vraiment un truc que tu as emporté.
Mais c'est vrai que la bifane, c'est le petit steak de porc parce qu'on le met en vigne d'ail. Donc, vigne d'ail, c'est une marinade de vin blanc, laurier et beaucoup d'ail. Il y a des gens qui disent que vindaloo. Ça vient de cette expression-là, parce qu'apparemment c'est une préparation de Goa, donc qui était une ancienne colonie portugaise. Encore une fois, nous les Portugais disent qu'on a tout inventé, hein, donc ça il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Mais donc la vigneta, ça c'est un bonheur. Ça paraît pour vos barbecues, faites cette marinade longtemps, et après vous mettez ça même au barbecue, et c'est génial.
Génial.
Donc la bifana, c'est la street food.
Ok. Et alors, est-ce qu'on peut parler, Pedro? Bien. De ce fameux sandwich, tu sais, qui est... Alors, attends, je sais, remets tes lunettes.
Ouais.
Alors... Mais est-ce qu'on peut parler de ce fameux sandwich qui, d'ailleurs, s'appelle le petit français, non?
La petite française.
Ah, en plus, c'est une femme. Bah,
ouais,
d'accord.
C'est une femme.
Très bien, c'est une femme. Et bon, bah, moi, bien sûr, j'en ai entendu parler, je ne l'ai jamais goûté de moi-même, tu le décriras mieux que moi.
Ouais.
Mais ça a l'air d'être... tellement junk.
C'est géant. Tu parlais de diagramme. Moi, la semaine dernière, c'est le jour, je pense, on a parlé aussi de la brandade qui vient pas de Portugal. Il y avait un garçon qui venait de passer des vacances au Portugal, qui avait un t-shirt avec un diagramme avec chaque couche de la francesinha. Donc, la francesinha s'appelle petite française. Je sais pas trop. Alors, apparemment, c'est notre version, dérive, je dirais, c'est notre dérive un truc entre le croque-monsieur et le Welsh, donc qui on mange dans le nord de la France. Donc je pense que techniquement c'est un sandwich, dans le sens où il y a deux tranches de pain, une en bas et une en haut.
Mais tant d'autres choses,
tout en éventail, donc du pain de mie normal, bien épais, enfin rien d'extraordinaire. Et du coup, il y a au moins un petit steak de bœuf, très, très fin, ce qu'on appelle, ce qu'on mange typiquement en brasserie, donc une viande qui n'est pas noble. Et après, il y a de la charcuterie, je dirais au moins du jambon cuit, au moins ça. Des petites saucisses, c'est la linguine, c'est délicieux, ça c'est délicieux. Et que du coup, tu coupes en moitié et tu mets aussi. Donc tout ça un peu cuit avant de mettre dans le sandwich. Je ne sais pas s'il y a ou non une autre viande aussi à queue de trois.
Mm-hmm.
Donc après, tu fermes ça. Donc c'est souvent des choses assez hautes. Donc je pense qu'il y a peut-être plus de viande que ça. Il va y avoir parfois vraiment de la saucisse aussi.
Ouais.
Donc tu mets la dernière couche. Après, tu la couvres de tranches de fromage. Donc ce qu'on appelle le fromage flamand. Donc en gros, nos fromages de lait, c'est un peu proche des Gouda ou des Jungbelgen du Pays-Bas. Et après, tu vas arroser le tout d'une petite sauce faite à la base de bière et crevettes.
Et donc, de bière et crevettes.
Ouais. Et donc ça va faire fondre. Donc, mais du coup, c'est juste une sauce, hein, on va rien. Donc c'est plutôt les têtes et les peaux des crevettes. Une sauce assez puissante que tu vas mettre chaude et qui du coup va faire fondre le fromage sur le pain. Et après, il y a des gens qui vont encore commander un petit œuf au plat parce qu'il n'y a pas assez de protéines. Et bien sûr, une petite assiette de frites à côté.
Ah la vache!
Donc, moi, je pense que ça fait très longtemps que je ne mange pas ça. Et quand je mangeais ça, il me fallait 2 jours de.
Pour t'en remettre?
Pour m'en remettre. Oh. Mais j'ai des copains qui bouffent ça comme ça.
Ouais.
Et le lendemain, ils en mangent une autre.
Bah, et puis, j'imagine que c'est le genre de truc un peu comme un burger ou un club sandwich. C'est-à-dire que ça peut être vraiment très bon si tu utilises des bons ingrédients.
Alors,
et vraiment médiocre si tu utilises des trucs pas
je
top.
Je pense, oui. Mais quand c'est bon, c'est vraiment très bon. C'est juste que c'est. On va dire que c'est riche, quoi.
Balèze, quoi.
Ouais, ouais. Et ça, c'est le. Alors, apparemment, ça vient de Porto, mais après, il y a des gens qui ça vient de Santa Maria da Feira, qui est une petite ville pas loin de Porto. Mais donc, ça, c'est typiquement, c'est à Porto, il y a les concours pour quelle est la meilleure francesine de la ville.
Ah ouais, la vache, ok. Ouais, ça me paraissait intéressant, tu vois, qu'on en parle, parce que je pense que l'une des choses, c'est drôle comme les choses s'exportent en dehors des pays, mais ne sont pas forcément les choses préférées des habitants. Et c'est pareil, ben voilà, pour, oui, le pastel de nata, qui est, nous, la seule et unique pâtisserie qu'on connaît, ou ce sandwich, ouais, dont vraiment j'avais déjà entendu parler plusieurs fois. Je ne l'ai jamais tenté, par contre.
Ça vaut le coup, hein. Franchement, quand
mais
c'est bon.
Mais je pense que c'est une
bon,
expérience. Hein.
Bon. Et en plus, à Porto, t'as très belles brasseries où t'es encore accueilli par des serveurs qui sont, tu vois, qui sont en uniforme, où les nappes sont encore en tissu, t'as une lumière un peu tamisée, donc ça vaut le coup.
Ah ouais, et là, boum, tu prends ta francisine et bim, ça dégage en junk, quoi. Et alors, Pedro, tu mentionnais aussi, quand tu parlais des châtaignes pour la Saint-Martin, tu mentionnais donc du coup que c'était votre armistice à vous, donc le 11 novembre.
Enfin, ouais. En tout cas, c'était même si on a participé à la guerre, hein, mais on s'est dit que c'était pas, ça ne valait pas le coup.
et ça m'amène du coup à te poser la question des célébrations que, en tout cas, toi, tu pouvais célébrer au Portugal et de la nourriture qui s'accompagnait pendant ces fêtes. Qu'est-ce que toi, tu célébrais dans ta famille?
Pâques et Noël.
Okay.
Globalement, c'est ça. D'ailleurs, quand je suis venu en France, c'était un peu dur pour ma mère qu'elle comprenne que je ne vienne pas pour Pâques.
Ah oui ?
Ouais.
D'accord.
Alors que Noël, j'y vais parce que ça c'est. Donc, c'est finalement des repas où les plats sont pareils. Enfin, assez pareils. En gros, le vendredi de Pâques, pour nous, c'est férié, pas comme ici. Donc, c'est le jour de la mort de Jésus. Donc, c'est la fin de la carême. C'est le dernier jour où tu peux pas, en théorie, manger de la viande, même si bon, c'est le seul jour où, en gros, tu es obligé de manger du poisson. Et on va manger de la morue chez moi, typiquement. Et ça va être la morue.
De quelle façon, alors ?
Bouillie dans de l'eau.
D'accord.
Juste bouillie dans de l'eau avec du chou, des œufs.
Des œufs durs ?
Des œufs durs, des pommes de terre et peut-être. Voilà. Donc, vraiment, dans la simplicité totale, sachant que pour ça, il faut vraiment avoir une très bonne morue. Et du coup, au Portugal, tu peux acheter ta morue un peu comme ici le fromage. Combien de mois de affinage, tu vas plutôt acheter, chez moi, quand c'est vraiment le jour de fête, tu vas acheter plutôt de la morue islandaise et pas nécessairement de la norvégienne. Voilà. La morue vient des eaux très froides, donc typiquement Norvège, Islande et Terre-Neuve, aujourd'hui un peu moins. Et du coup, mais le Portugal faisait la pêche de la morue, et ce qui explique aussi une certaine présence de migrants, enfin présence migratoire portugaise dans les côtes est de l'Amérique du Nord.
Ok, makes
donc,
sense.
On la pêchait, mais pas chez nous.
D'accord.
Et du coup, on la salait parce que c'était précisément ce qui me permettait.
Oui, pour la conserver et pour la ramener au pays.
Ouais. Avant que tu manges la morue, tu as tout le travail de la dessaler. Ça prend au moins 48 heures. Chez moi, on le fait souvent avant et après, on le congèle. Mais sinon, tu peux la faire. Il faut se préparer 48 heures avant. Et sinon, j'ai un copain qui, quand il fait des plats de morue géniaux avec beaucoup de béchamel, il a fait dessaler dans du lait. Et après, il utilise ce lait-là pour faire la béchamel. Ça peut être très bon.
D'accord, ok. Donc, en tout cas, pour Pâques, un repas relativement sain.
Ouais, donc ça, et on n'a pas nécessairement de dessert chez moi typique. On a le foulard, qui est un gâteau typique, plutôt une texture assez dense, presque comme la broue dont je parlais tout à l'heure, mais plutôt sucrée, mais pas trop. Donc un pain sucré qui a un œuf au milieu et une tresse. Et l'œuf est juste vape, symbole de la fertilité.
D'accord. Okay.
Et ce que vous avez qui est les chocolats, c'est ça ?
Oui.
Pour nous, c'est les amandes. Donc les amandes et les dragées. Et donc typiquement, il y a tout un éventail d'amandes que tu peux choisir. C'est devenu un peu désuet. Et moi, j'avais toujours mes 2-3 amandes préférées.
C'est quoi tes amandes préférées ?
Moi, c'est l'amande milanaise. Ouais. En gros, c'est un peu comme le chouchou. En gros, c'est des amandes torréfiées couvertes de caramel. Quoi. Mm-hmm. Et j'aimais beaucoup les amandes couvertes au chocolat.
Ok, donc ça, c'était pour Pâques. Pour...
Et après dimanche de Pâques, on va manger un agneau.
D'accord, on va manger de l'agneau pascal. Four.
Donc, on le fait mariner la veille idéalement avec une préparation huile d'olive, ail, sel, poivre. Beaucoup de paprika et du vin blanc. Donc il marine et après il va au four, température un peu basse. Et on mange ça avec des pommes de terre qu'on fait au four aussi. Par exemple, les pommes de terre boulanger qui sont avec du sel, avec de la paprika aussi. Ce sont des pommes de terre, encore une fois, un peu sèches qui vont être un peu croustillantes et du coup, qui vont aller bien avec la sauce du tout. Pour Noël, on va... La veille de Noël, on va répéter la morue. Mmh. Donc pareil, sans grosse différence. Et le jour de Noël, chez moi, on va manger du chevreau qui va être fait à peu près comme l'agneau. Là, c'est le chevreau que c'était ma tante qui ramenait de la montagne. C'était délicieux.
Là, ça doit être bon, le chevreau. J'ai jamais goûté.
C'est délicieux, c'est très bon. C'est très, très bon. Moi, j'ai passé très longtemps... Mes amis français pensaient que j'étais très bourge parce qu'ils disaient que je mangeais du chevreuil pour Noël.
Ah,
mais
d'accord.
Du coup, j'ai pris un peu de temps à comprendre que...
Non, c'était du chevreau.
Ouais. Pas bourge du tout.
Ouais. Mais très terroir, donc terroir
portugais.
Très
terroir, c'est très bon.
Et c'est fait, donc du coup, oui, avec le même genre de marinade, avec du paprika.
Ouais.
Et
par contre, là, ce qu'on fait, dans ma famille, on fait un riz de viscères avec. Du coup, tu prends les viscères du chevreau et tu vas faire un riz qui va accompagner le truc. Plus un légume sauté, souvent des pommes de terre. Donc là, tu es dans le double féculent.
Riz pommes de terre.
Ouais.
Et ce riz de viscère, Pedro, c'est comme un... Pareil, c'est sous forme de bouillon, enfin un peu comme quand tu nous expliquais.
Non, il va être un peu humide, mais pas tant que ça. Tu vas commencer par cuire les viscères et après tu ajoutes l'eau et après tu vas cuire le riz avec les viscères dans cette autre viscère.
Bon, encore une fois, en même temps, c'est dans l'optique zéro gâchis.
Ouais.
C'est bien.
Clairement.
D'accord. Le respect de l'animal qu'on tue pour manger et du coup on utilise absolument tout.
Ouais, et ça, chez moi, tout le monde adore. Moi,
d'accord.
Je suis le seul. Moi, j'essaie de mettre un peu aux viscères précisément pour le zéro gâchis. J'ai un peu du mal.
Et est-ce que vous finissez le repas par quelque chose de particulier en termes de dessert, de sucré?
Ça, c'est toute la période et ça, c'est l'explosion de fritures. Alors, il y a aussi des vrais desserts, un peu de plats, mais le truc typique au Portugal, c'est des fritures de Noël. Et là, encore une fois, tu vas trouver des variétés régionales, des variétés machin. Enfin, moi, j'ai une passion friture. Et la friture de Noël, c'est vraiment un bonheur parce que c'est friture sucrée. Mais encore une fois, pas trop sucrée. Par exemple, moi, ce que je fais toujours chez moi, c'est les rêves. Et les rêves, en gros, c'est presque une pâte à choux qu'après, tu vas frire. Et tu vas la laisser frire et tu vas, au fur et à mesure, tu la tapotes avec ta fourchette pour qu'elle ouvre, pour qu'elle soit, du coup, assez grande, mais très aérée à l'intérieur. Donc ça, typiquement, il n'y a pas beaucoup. Il y a un goût juste un petit peu de citron, parce que t'as mis un petit peu de citron et de cannelle avec la pâte à choux quand tu la faisais, mais sinon il n'y a rien d'autre. On a un peu le French toast, le pain perdu, mais qu'on va frire pas dans le beurre, dans l'huile, et qu'après dans le nord tu vas avoir des sirops au Porto et des choses comme ça. Chez moi on le fait un peu moins. Et moi ce que j'adore, il y a deux choses que j'adore. Il y a un qui est au couscous, c'est vraiment un truc, vraiment, c'est presque comme un craquant frit.
Okay.
C'est typiquement, je me dis, c'est peut-être presque une batter, presque une panure. Et du coup, c'est presque un rectangle où tu fais trois entailles. Et du coup, quand ça frit, ça donne de la place pour
gagner en volume et en
croustillant.
En
ouais. Donc, c'est très bon. Et les meilleurs, c'est les asviesh, que c'est des petits trucs, presque des petits dumplings, des petits dumplings fourrés. Moi, j'adore ceux qui sont fourrés en compote de pois chiches.
Et
qu'après, tu vas frire.
Et c'est marrant, ouais, comme vous utilisez du coup donc certains éléments. Tu vois, tu parlais de la courge spaghetti ou là des pois chiches que nous on utilise plutôt dans la cuisine salée. Mais vous, du coup, c'est des éléments que vous utilisez dans le sucré.
On l'utilise beaucoup aussi dans le salé, mais là le pois chiche, on l'utilise aussi. C'est le seul dessert, le seul sucré que je connais avec du pois chiche.
D'accord.
Donc ça c'est délicieux. Et après on a aussi les filioches qui peuvent être faits aussi avec la courge, mais avec la courge plutôt normale. Donc pas la spaghetti nécessairement, à la carotte aussi, à l'orange. Donc il y a
Il y a moult possibilités.
Là, encore une fois, c'est les trucs d'hiver, quoi. Donc,
la créativité portugaise, quand même, c'est quelque chose à dire.
Et tout ça pour frire.
Bah, merci beaucoup, en
merci
tout cas,
moi,
de nous avoir parlé de ton ressenti, quoi, sur la nourriture portugaise. C'était passionnant. Et moi, je trouve que c'est une cuisine dont on ne parle pas assez, voire pas du tout. Enfin, je trouve, tu vois, comparé même aux livres qu'on peut trouver dans le commerce, à ce qu'on voit sur certaines nourritures voilà, du sud de l'Europe et d'ailleurs, et je trouve que la nourriture portugaise gagne à être connue. Donc merci de nous avoir partagé de ton expérience.
Bah, merci à toi, c'est un plaisir.
Voilà, comme vous l'avez vu, ça a été une longue conversation avec Pedro. J'espère que vous en avez découvert autant que moi sur la nourriture portugaise et que ça vous donnera donc notamment envie de découvrir leurs pâtisseries, mais également leurs plats et leurs fritures. D'ici là, rendez-vous sur ma page Instagram, @noemiebourrier, pour voir ce qu'on s'est cuisiné, Pedro et moi, à la suite de cette interview.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.